France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse tous les vendredis à 10h. Et ce matin, comment redonner du sens à sa vie quand le quotidien devient flou, quand on se sent perdu, désorienté, ce sentiment de perte de sens que l'on peut tous ressentir dans sa vie professionnelle, sociale, personnelle, intime, spirituelle, dans un monde plus que jamais liquide, sans phare ni balise, comment trouver un sens, une direction, un cap qui permette de se réaliser. Ce matin, le psychologue Aymeric Langueyran et le philosophe Alyosha Wald Lazowski esquisse des pistes pour redonner du sens à nos vies. Il donne du sens à ma vie tous les vendredis. Thibaut de Saint-Maurice et Guillemette Odissino. Bonjour Thibaut.
Non.
Quoi ?
Non.
Bon, chercheur en philosophie, quel est le menu en fin d'émission de votre punchline philo ?
Eh bien, toujours non.
Parce que,
voilà, c'était une petite performance.
Oui,
en
ça fait du bien dire voilà. Non à Ali Rebbi. Ah, c'est génial.
Parce que la punchline d'aujourd'hui, c'est celle d'Alain, voilà, qui nous dit au début de son propos du 19 janvier 1924, « Penser, c'est dire non ».
Bonjour Guillemette Odissino.
Oui, Ali.
La grande amnésie qui a oublié à la fois l'anniversaire de Thibaut de Saint-Maurice cette semaine et de déjeuner avec moi. Bravo, voilà. Guillemette.
Je savais que je serais dénoncée dès le début.
Voilà. Vous êtes chef de rubrique cinéma Télérama et vous nous délivrerez tout à l'heure votre ordonnance de cinéthérapie.
Oui, bah en fait, je vais vous parler de quelqu'un qui, souvent, dans une vie, bah, donne beaucoup de sens, insiste même pour donner beaucoup de sens.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Pas facile. Moi, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que tout ce que je touche se transforme en échec. J'aurais tellement aimé être un mec... comme on voit dans les reportages. Tu vois, les mecs qui claquent des doigts comme ça, tech, et les gens, ça fonctionne, quoi, tu vois. Ça le fait, mais... Un entrepreneur, moi, je... Comme Michael Douglas. Vous voyez Michael Douglas dans Wall Street, tu vois. Déjà, quand on m'a réorienté en cinquième, c'était pas bon signe. Mais bon, on dit, si tu crois en tes rêves, ça va se réaliser. Mais c'est pas vrai.
Le personnage de Monopole Ward dans Le Grand Bain de Gilles Lelouch en plein désarroi existentiel. Bonjour Aymeric Langueyran.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et psychothérapeute et vous publiez chez Dunod « Comment redonner du sens à sa vie ». Que vous inspire le désarroi, la perte de sens que l'on entend là dans cet extrait du Grand Bain ?
C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les consultations, cette perte de sens, et ça s'est affirmé de plus en plus ces dernières années. Ce qui est intéressant avec l'exemple qu'on a entendu, c'est que finalement, il y a cette question des modèles, et on est assiégé finalement de modèles, notamment avec les réseaux sociaux. On sait que ça a un impact assez important pour la santé mentale et un impact négatif. De ces modèles auxquels on va essayer auprès desquels on va essayer de courir pour essayer de ressembler. Mmh. Et justement, c'est ce qui va encore moins donner du sens à son existence.
Bonjour Alyosha Wald Lazowski.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur de philosophie à la faculté de sciences humaines de l'Université catholique de Lille. Oui. Et parmi vos nombreux livre très éclectique, je retiens à chacun son rythme, petite philosophie du tempo aux éditions Le Pommier. Ça veut dire quoi pour le philosophe que vous êtes donner du sens à sa vie ?
Alors effectivement, il y a peut-être deux manières de le comprendre, c'est-à-dire effectivement la première, c'est donner du sens, c'est donner de la signification. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de trouver une vision, un projet, une manière de s'orienter et d'aller vers quelque chose. Et ça, je pense que ça demande du temps. Et la deuxième chose, c'est donner un sens, c'est évidemment donner une direction, c'est-à-dire un pont à franchir, une sorte de plan. Donc là, c'est plutôt une cartographie, une géographie. On a l'impression que la signification, c'est du temps et de l'histoire, et que la direction, c'est plutôt de la cartographie et de la géographie. Et donc, la combinaison des deux, la spatialisation et la temporalité, c'est pas facile. C'est un exercice qui est complexe. Et là, peut-être qu'effectivement, la notion même de rythme peut nous aider aussi à traverser ça.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, et puis dans l'expression « donner du sens à sa vie », il y a aussi, moi, que je trouve quelque chose que je trouve très beau, qui est de donner
du sens. Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'il faut que le sens nous tombe un peu tout cuit dans l'escarcelle de, qu'on porte avec nous. Mais dans ce donner du sens, dans ce don, il y a la question immédiatement de savoir qu'est-ce qu'on donne à sa propre vie. Est-ce qu'on s'y projette ? Est-ce qu'on fait donc cette cartographie, cette lecture un peu de son histoire individuelle ? Et qu'est-ce qu'on donne comme chance à son existence de se déployer ? Qu'est-ce qu'on donne comme chance aux gens qu'on rencontre de nous donner, eux aussi, quelque chose à emporter avec nous ? Voilà, moi, j'aime bien, déjà, juste questionner ce premier terme.
Oui, ça rejoint la question de l'existentialisme et la question de Camus. Hein, cette question aussi, évidemment, de Sartre, avec, finalement, l'existence qui précède l'essence. Et bien souvent, cette question-là a été, effectivement, le champ de la philosophie, et pas tellement le champ de la psychothérapie. C'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet-là, parce que je voyais de plus en plus de personnes qui étaient perdues. Perdues parce que, justement, le sens de l'existence, qui leur paraissait comme une évidence, cette évidence s'écroule, et ils sont reconfrontés à cette question-là. J'existe, effectivement, mais vers où je vais, quel est le sens de la direction que je prends.
Le titre de votre livre, Aymeric Langueyrand, est très important. Comment redonner du sens à sa vie ? Redonner, cela implique que par le passé, on a été capable de donner du sens à sa vie.
Oui, alors, parfois on a été capable de donner du sens à sa vie parce qu'on a cru qu'elle avait un sens, parce qu'on nous a mis dans des rails du sens. On le voit maintenant, hein, où les enfants doivent se poser la question des options qu'ils vont choisir sur Parcoursup, quasiment de la maternelle. Donc cette question-là fait que les personnes se retrouvent parfois dans des rails. Et j'ai commencé à voir cette problématique-là émerger avec des personnes qui avaient fait des études, qui avaient commencé à travailler, au bout de quelques années de travail, se disaient « mais je ne vais pas continuer à faire ça pendant 42 annuités ». Et donc, ils se demandent mais finalement, pourquoi je fais ça ? Quel est le sens de ce que je suis en train de faire ? Et l'évidence qui était là donnée au départ par l'extérieur, d'un seul coup s'écroulait. Et cette évidence donnée par l'extérieur, elle a été le cas pendant longtemps. Et puis, petit à petit, on n'a plus repris le travail de ses parents, on n'a plus été dans des couloirs qui étaient déjà tout tracés bien avant notre naissance. Et ça a ouvert un champ, qui est un champ de liberté qui est énorme, et dans lequel on voit de plus en plus de personnes se perdre au début de l'âge adulte, se perdre en milieu de vie, où d'un seul coup, il y a des changements, des accidents de la vie, des ruptures, qui posent cette question-là. Mais maintenant, où je vais maintenant ?
Alyosha Lazovski.
Oui, c'est vrai, pour rebondir sur cette question, lorsqu'on arrive à se reconnecter avec soi-même, ce qui est déjà tout un travail et une sorte de perspective complexe, si par exemple on ressent, je prends un exemple très concret, quelqu'un qui a envie par exemple de donner sa vie, c'est-à-dire par exemple s'occuper des animaux, qui a envie de s'investir pour faire un refuge pour les chats, les chiens par exemple, parce qu'il trouve que ça va vraiment lui apporter quelque chose, et ça c'est sûr, mais ça va être aussi un parcours du combattant, ça va être complexe. Est-ce qu'il faut devenir bénévole, monter sa propre association? C'est-à-dire que là, il faut à la fois, je disais tout à l'heure, le sens, la direction et la signification, il faut avoir avec soi une boussole et un sablier, parce que ça va prendre du temps, et en même temps, il va falloir s'orienter. Et donc, on peut avoir quelque chose qui vraiment nous vient de l'intérieur, et il va falloir aussi se mettre, est-ce qu'on va se mettre à plusieurs pour créer un refuge ? Est-ce qu'on va trouver des bonnes conditions ? S'occuper des animaux, il faut un certain nombre aussi de réglementations, de lois, enfin de choses très complexes, mais ça va être, je pense, quelque chose qui vient de soi. Voilà, ça va venir de soi, cet éco-bénévolat, par exemple, c'est très important.
Et puis, on peut après aller même encore plus loin. Finalement, derrière cette envie, il peut y avoir des questions de valeur. Souvent, on va retrouver des questions de l'injustice, par exemple, de l'injustice que vont vivre et subir des animaux qu'on abandonne sur le bord d'une route. Et donc, derrière, on peut se dire, finalement, peut-être que ce qui mobilise la personne, c'est ce sentiment d'injustice, c'est de travailler sur l'injustice, et ça ouvre un champ où finalement il y a beaucoup plus de possibilités, voire même de possibilités concrètes qu'on peut insérer dans le quotidien.
Guillemette.
Mais est-ce que aussi le fait qu'en ce moment, vraiment, de plus en plus y ait cette question de perte de sens, etc., c'est qu'avant, même si ce n'était peut-être pas merveilleux qu'on nous donne un sens et qu'on nous en impose un bon, mais si on nous imposait un sens, c'était au moins dans une société et un monde qui avait un sens. Donc, ça pouvait encore coller à peu près. Mais là, le problème, c'est que c'est aussi le monde qui perd le sens. Donc, est-ce que là, il n'y a pas une double... Enfin, un double vertige.
Et Guillemette a totalement raison. C'est vrai que trouver un sens à sa vie dans un contexte où tout paraît chaotique, angoissant, où l'avenir apparaît plus que jamais anxiogène, c'est assez compliqué.
Oui,
et j'imagine que vous le voyez dans votre cabinet, Aymeric Langueyrand.
Oui, mais aussi assez paradoxalement, les gens souffrent aussi d'être exposés à du bonheur, du merveilleux. Je pense évidemment aux réseaux sociaux, où dès qu'on ouvre une application, on voit des personnes qui sont heureux, qui font la fête, qui sont en forme physiquement, qui vivent des expériences incroyables, qui vont à l'autre bout du monde et ainsi de suite. Et on voit beaucoup de personnes qui souffrent aussi de ça. Parce que des périodes compliquées, il y en a déjà eu beaucoup dans notre histoire. Donc c'est vrai qu'il y a eu, il y a un siècle, une grande partie de la France était des agricultrices et des agriculteurs. La question de ce qu'on allait faire ne se posait pas. Il fallait se lever, il fallait s'occuper des bêtes, il fallait s'occuper de la terre. De toute façon, on avait hérité ça de ses parents, de ses grands-parents, qui d'ailleurs vivaient dans le même espace. Il fallait transmettre ça aux enfants. Pour avoir de l'eau, la majorité de la population n'avait pas l'eau courante, il fallait aller chercher au puits. Bon, il n'y avait pas le temps de se poser la question de savoir où est-ce qu'on allait. Mais à une époque, on a heureusement plus de temps et heureusement qu'on ne fait pas, reprend pas l'affaire familiale systématiquement, bah, ça pose la question, vers où je vais. Mais c'est compliqué de répondre à cette question-là quand vous avez des modèles de bonheur qui vous sont vendus en permanence partout.
Oui, mais il faut quand même savoir qu'ils font tout semblant d'être heureux aussi sur les réseaux sociaux. Donc, de toute façon, eux non plus n'ont pas trouvé le sens.
Mais alors, je pense que là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que face à ce vertige où tout est possible, il y a un danger qui est le mimétisme. C'est-à-dire qu'on se replie sur une forme de mimétisme qui nous rassure. Et c'est là où, moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous sommes toutes et tous des homo rhythmicus. On est liés, on a quand même un rapport à son propre rythme et au rythme des autres. Et je pense, Guillette me confirmera, une scène d'un film, Le Cercle des Poètes Disparus, où le professeur Keating demande aux élèves, un moment dans la cour, marchez à votre rythme, faites comme vous voulez. Et au bout de quelques instants, en fait, ils marchent au même pas et tous les autres applaudissent en même temps sur la même cadence. Et lui, il dit, mais non, moi j'essaie de vous apprendre à trouver votre propre rythme. Et le mimétisme, je pense que c'est quelque chose qui, à la fois psychologiquement, humainement, socialement, est une manière de calmer le vertige, mais de se replier sur un mimétisme.
Thibaut.
Et d'un autre côté, pour amener la discussion, dans cette question, c'est aussi le désarroi, il peut naître du fait qu'on se sente responsable de donner tout seul du sens à sa vie.
C'est vertigineux.
C'est vertigineux. Et de la même façon que le langage, par exemple, qui est source de sens, de signification, bon, c'est pas moi qui décide que le mot table est la signification de mot table. Donc, si le sens est aussi quelque chose qui est, avec des règles, qui a une sorte de bien sur lesquels on s'entend, etc., ça veut dire qu'il faut naviguer entre le risque du mimétisme, le vertige d'être responsable tout seul de ce sens-là, et que, on est aussi peut-être en désarroi, parce que au fond, la question, c'est quoi le signifié, enfin, les signifiés et signifiants de ce sens de la vie, qui ne dépendent pas que de moi, mais qui ne doit pas être le même que celui des autres.
Aymeric Langueyrand, la question du sens à donner à sa vie, elle est vitale. Je prends le psychologue autrichien Viktor Frankl. Pour lui, l'absence de raison de vivre provoque des souffrances psychiques qui sont liées à ce vide existentiel. Faut prendre au sérieux cette question de la perte de sens.
Oui, c'est une question qui s'affirme de plus en plus. Il y a eu aussi évidemment l'épidémie de la Covid qui a cassé un certain nombre d'évidences également. Et bien sûr, il y a une souffrance derrière qui peut être associée après aller vers la déprime, la dépression, qui peut aller vers évidemment l'anxiété et qui peut aller évidemment, Viktor Frankl, il questionnait aussi la question du suicide derrière cette question-là. Ce qui est intéressant justement avec Frankl sur la question du suicide, c'est que une des questions qu'il pouvait poser aux personnes, c'était pourquoi vous ne le faites pas ? Quand elles étaient dans des idées suicidaires et qu'elles venaient partager ces idées suicidaires. Et finalement, la réponse à la question commençait déjà à ouvrir quelque chose du sens que pouvait avoir la personne. Souvent, le malaise vient du fait, non pas qu'on n'a pas des éléments qui pourraient donner du sens, mais c'est qu'on ne les connaît pas. On ne connaît pas finalement ce qui nous anime, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui peut donner de la consistance à l'existence. Et on va chercher à l'extérieur cette réponse-là. Alors évidemment, vous avez sur les réseaux, sur les plateformes, plein de personnes qui vous disent « faites ceci, prenez une douche glacée, levez-vous à 5h du matin, le miracle morning, et ainsi de suite », et qui vous disent quoi faire, mais qui ne vous aident pas justement à aller réfléchir à où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui, pour moi, donne du sens au quotidien, mais dans une réflexion où, justement, c'est pas le vide et l'abîme, mais quelque chose un peu structuré, parce que pour pas partir dans une introspection sans fin, où finalement, on erre sans jamais trouver la lumière et la sortie du tunnel.
Alyosha Lazovski.
Oui, c'est vrai que cette question de l'inconnu est forcément très, 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 très complexe, mais je pense que c'est évidemment petit à petit qu'on va pouvoir regagner de la confiance, de l'harmonie, de la relation avec soi et avec les autres. Parce que ce qui m'intéresse dans la notion, par exemple, notamment de rythme, c'est le rythme relation. C'est-à-dire c'est un rythme qui est tourné à la fois vers soi-même, comme on va pouvoir s'approprier des rythmes extérieurs pour les faire soi. Et ça va évidemment changer un petit peu aussi la cadence et la rapidité, parce que chacun, je pense, dans les questions un peu de vitesse de vie, donner du sens, c'est aussi une question un peu de vitesse. Parfois, il y en a qui vont trop dans une accélération et au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Ça tourne à vide, il y a une surcharge. Et à l'inverse, certains ont besoin de temps, de lenteur, de s'approprier les choses. Mais ça, c'est une question effectivement d'harmonie qui est très subtile. Hein. Et je pense que le rythme relation, c'est quelque chose qui est à la fois fragile, mais qui est jamais... En tout cas, moi, je m'intéresse finalement... Derrière le mot rythme, moi, je mets la plasticité. Derrière le mot rythme, moi, je ne mets pas la cadence, le mécanisme, comme le Charlot dans les temps modernes. Derrière le rythme, moi, je mets quand même quelque chose qui est mouvant, qui est plastique, qui est incertain. Donc, si on le prend dans ce sens-là, à ce moment-là, on va essayer de trouver son sens de vie en trouvant son rythme, en l'adaptant petit à petit. Et je pense que c'est seulement le vécu qui va nous permettre de dire ce rythme-là me convient bien, je vais essayer d'en profiter pendant quelques temps.
Émeric Langueron.
Oui, et puis cette question, vous le disiez, Alyosha, sur aussi le temps, la patience. Et c'est difficile d'être patient dans une époque où on est dans l'accélération permanente, ce que disait Hartmut Rosa, où tout va de plus en plus vite.
Sociologalement.
Et où on est aussi dans la satisfaction immédiate. Et prendre le temps et réfléchir, c'est accepter de ne pas y avoir une satisfaction immédiate, alors qu'on est dans une époque où tout nous invite à aller chercher la satisfaction immédiate.
Il est 10h23, il est l'heure de retrouver la cinéthérapie du docteur Guibert Odissino.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Ha ha. Ça, c'est de la satisfaction immédiate. Alors, cher Ali, alors que la semaine dernière, j'étais à Montréal, dans un festival épatant, Cinémania, j'ai pensé à ma mère. Bon, alors j'y ai pensé, comme tous les jours que Google Agenda a fait. Mais un peu plus, puisque le 13 novembre, elle aurait eu 94 ans. Alors, si je vous dis ça, c'est pas pour vous émouvoir, quoique un bon chantage affectif. Cette discipline dans laquelle, justement, maman était championne olympique, ça mange pas de pain. Si je vous dis ça, c'est pour obéir au sujet d'aujourd'hui. Car, question sens de la vie, tous les chemins mènent aux daronnes. Ou plutôt, ils commencent avec elles. Que l'on suive leurs enseignements, que l'on fasse tout le contraire, qu'elle soit collante ou distante, qu'elle soit autoritaire ou laxiste, et qu'évidemment leurs gosses leur reprochent autant d'être l'un ou l'autre, ces femmes sont le sel de nos terres à venir. Celles qui vous de... Et j'avoue, pour ma part, une préférence marquée, très marquée, pour les mères envahissantes. Celles qui vous demandent ce que vous voulez pour Noël dès le mois de juillet... Celle qui vous tiendrait encore la main pour traverser alors que vous avez 30 ans. Écoute, maman, je vais au bureau. Bah non, tu peux pas m'accompagner. Celle qui serait prête à pousser sous un bus le mec qui a eu une promotion à votre place. Celle qui, à la porte, sur le point de partir, après avoir squatté chez vous toute l'après-midi, prononce cette phrase fatale « Que je suis bête, j'ai oublié de te dire oh. !» Celle, donc, qui bouffe l'espace et qui, évidemment, laisse d'autant plus de vide quand elles disparaissent pour de bon. Alors, dans cette catégorie, un film s'impose. Mon bébé, de Lisa Azuelos, une comédie totalement fondante et très juste sur les rapports mère-fille et mère-fils, où Sandrine Kiberlin, mounette moderne, paniquée, follement aimante, se prépare au départ de la maison de sa petite dernière avec laquelle elle est tellement complice depuis 17 ans.
Attends chérie, je suis vraiment comme ça en vrai, là.
Maman, je taffe là, ok?
Ah ouais, putain, je suis vraiment comme ça. Oh! Effrayant, là.
Tiens, maman, au lieu de bader, tu peux me signer ça, c'est pour ma PAC, comme chemineur.
C'est quoi la PAC?
Progression accompagnée de chute libre.
De chute libre? C'est quoi la chute libre?
Tu sautes d'un avion à 4000 mètres avec un parachute.
T'es sérieuse, là?
C'est avec mes économies.
C'est tellement pas un argument.
Maman, c'est mon rêve.
Oui, et eh ben écoute, moi, mon rêve, tu vois, c'était d'épouser Georges Clooney et ça se fera pas.
Mais pourquoi?
Mais parce que je me suis fait une raison, je ne suis pas le genre de George Clooney, on ne peut pas non plus plaire à tout le monde.
Pourquoi tu veux pas que je passe ma PAC?
Mais parce que, écoute, réfléchis, je sais pas, j'ai peut-être pas envie que tu meurs, ou alors j'ai pas envie que tu deviennes tétraplégique.
Mais Théo, tu lui as acheté une putain de moto, c'est bien pire.
Bah parce que je te préfère, voilà.
Non mais maman, tu dis ça à chaque enfant, c'est
bon, bref, tu sais quoi, c'est non.
Quoi, voilà. C'est non, mais...
Non, c'est non.
Bon, écoutez, vous avez entendu, plus drôle que Sandrine Kiberlain dans ce film, tu meurs.
Et j'en profite pour saluer ma mère. Je crois que oui. Vous avez également choisi un film au titre joliment explicite sur le pouvoir maternel.
Oui, comment ne pas conseiller Reine-mère. Ah. Dans cette comédie singulière, la réalisatrice Manelé Labidi raconte l'histoire d'une famille d'immigrés maghrébins arrivés en France à la fin des années 80 et qui subit déclassement social et racisme larvé. Alors la reine du titre, c'est Amel, explosive femme au foyer qui a scolarisé ses deux filles dans une école privée catholique et refuse de les déscolariser quand la famille risque de perdre son appartement. Pendant que cette Amel, si fière, chicane son mari, pas assez combatif à ses yeux, la fille aînée, elle, rencontre le fantôme de Charles Martel. Alors, il faut voir Camélia Jordana, royalement drôle, en version tunisienne de Sophia Loren.
T'as passé trop de temps chez les cathos, toi. Je te rappelle que chez nous, t'aimes d'abord ta mère, ensuite ta mère, après ta mère, et seulement après t'aimes ton père.
Voilà, bon, écoutez, c'est clair ou pas? Et alors, finalement, peut-être que le sens de nos vies, bah, cela commence avec l'orgueil et le sens de l'humour de nos mères.
Alors, je rappelle l'ordonnance de cinéthérapie du docteur Odissino, Mon bébé de Lisa Azuelos avec Sandrine Kiberlain et Reine-mère de Manelé Labidi avec Camélia Jordana. La cinéthérapie de Guillemette Odissino est à retrouver, bien sûr, sur l'appli Radio France. Dans un instant, nos invités continuent à partager des pistes pour redonner du sens à nos vies. Ce sera juste après avoir écouté Étienne Dao, Bleu comme toi, une chanson de 1988, 10h28 sur Inter.
Je suis ailleurs, mais où est-ce d'ailleurs? On me trouve parfois là-haut sous les toits. Il est en l'air un monde un peu meilleur. Tu me retrouves parfois là-haut sous les toits. Ton regard est sombre comme un ciel d'hiver, vert. Ton regard est fou lorsque l'univers vert flamboie. Ton ailleurs est bien ici sauf erreur. Tu te couches pas.
Étienne Dao, Bleu comme toi.
Grand bien vous fasse.
Non, Lulu, sois patient.
Mais pourquoi?
Tu le sais pourquoi, parce qu'on ne like pas ses propres vidéos sur Internet.
Ali Rébi.
Il y a des règles, c'est comme dans la vie.
Sur France Inter.
Comment redonner du sens à sa vie, c'est notre thème ce matin dans Grand Main Vous Fasse, en compagnie du psychologue Aymeric Languerrand qui publie « Comment redonner du sens à sa vie » et en compagnie également du philosophe Alyosha Wald Lazowski. Aymeric Languerrand, donner du sens à sa vie, ça n'a pas évidemment la même signification situation à 20, 30, 40, 50 ans. Prenons la trentaine. C'est un moment, vous l'expliquez dans votre livre, où cohabitent la quête de sens et les pressions sociales.
Oui, les pressions sociales, parce qu'on voit son environnement se mettre en couple, éventuellement avoir des enfants, s'installer dans une vie professionnelle. Et donc, évidemment, cette question de la comparaison, qui reste encore un peu proche, la comparaison, c'est vraiment une dynamique adolescente. Et puis, on quitte un peu cette comparaison après en rentrant dans l'âge adulte, mais on y reste des fois un peu encore attaché. Donc, on voit tout le monde évoluer dans sa vie, et donc on va se comparer, évidemment, avec les réseaux sociaux encore plus. Et dès qu'on est un peu différent, dès qu'on n'est pas forcément dans la même dynamique, hein, on n'a pas tous le même rythme, comme le disait Alocia, cette question-là, d'un seul coup, vient déstabiliser les personnes et se disent, mais pourquoi moi je n'ai pas ça? Pourquoi je ne suis pas comme ceci? Pourquoi je ne suis pas comme cela? Et puis, évidemment, les groupes se modifie. Parce que dès qu'on se met en couple ou dès qu'on a des enfants, on est moins disponible pour le groupe. Et donc, le groupe d'amis éclate et les personnes se retrouvent un peu isolées, sont parfois, pour certains ou certaines, le célibataire à la table et ça devient compliqué.
Alyosha Wald-Lazowski.
Oui, c'est vrai, comme le dit Émeric, finalement, il y a une complexité entre l'individuel et le collectif. C'est ça qui se métamorphose, qui se transforme. La relation entre l'individu et le collectif bascule, change, les repères ne sont plus les mêmes. On s'est approprié, je pense, un certain nombre de choses, comme vous venez de le dire, mais après, il faut encore arriver à se positionner, soi, et on recrée d'autres collectifs, la famille, les relations, le couple, enfin... Donc, en fait, on est en permanence dans ce jeu-là entre... ça pourrait être une lecture, peut-être, du sens à donner, parce que quand on donne du sens à sa vie, c'est aussi par rapport à la vie des autres. Et donc, on se détache peut-être de certaines choses pour mieux se retrouver vers d'autres.
Oui, et puis souvent, quand on avance, on idéalise un peu les choses, notamment son activité professionnelle. Et donc, on se voit prendre une position, on se voit faire ceci, cela. Et puis, une fois qu'on est dedans, on s'aperçoit qu'il y a des contraintes, qu'il y a des obligations, que la vie avec les collègues n'est pas toujours simple, qu'il y a des enjeux systémiques qui viennent faire disparaître votre emploi, et ainsi de suite. Et donc, d'un seul coup, tout ça... perd comme repère et se repose la question des fois du choix professionnel.
Alors la quarantaine, la cinquantaine, ce sont des tournants existentiels, des périodes de remise en question, de reconsidération de ces choix avec une forte recherche de sens. C'est vrai que plusieurs études menées sur des adultes d'âge moyen dans des pays prospères ont montré une détresse accrue à cette période de la vie. C'est d'autant plus étrange que ces individus sans problème apparent de santé majeure et qui vivent dans des pays riches sont au fait de leur carrière et ont pourtant connaissent cette détresse du milieu de vie assez poignante, écrivez-vous dans votre livre, Émeric Langueyrand.
Oui, c'est une détresse qu'on va retrouver effectivement assez généralisée, quels que soient les contextes. Plusieurs explications sont venues. À un moment, on parlait de la crise du milieu de la vie, liée au fait que, par exemple, quand on a des enfants, les enfants partent, quittent le foyer, et d'un seul coup, il y a du temps disponible, d'un seul coup, il faut se réinventer parfois un rôle aussi. C'est aussi un moment où, ça a été même le titre d'un film, on s'aperçoit que il reste une partie de vie, qu'on a fait la moitié.
Le premier jour du reste de ma vie.
Exactement.
J'ai failli en parler aujourd'hui.
Et donc, d'un seul coup, on se dit, en fait, finalement, là, il ne me reste pas si tant de temps que ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Vers où je vais? Donc, c'est des moments comme ça, un peu charnières.
Et pour vous, ce moment de crise, c'est une chance qu'il faut saisir, une belle occasion d'introspection et de transformation personnelle.
Complètement. La crise, c'est un moment justement où on se repose des questions. C'est quelque chose qui permet d'avancer la crise. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça devient négatif quand on n'en sort pas, bien évidemment.
Guillemette. Oui, mais c'est assez paniquant que la crise soit un terreau pour réinventer quelque chose. C'est bien, mais là aussi, et c'est là que la société actuelle se remet à nous emmerder, c'est que aujourd'hui, changer de carrière, se réinventer, changer de vie, c'est encore plus dur qu'avant. Parce que la crise économique est partout, parce que c'est compliqué de se loger, parce que c'est compliqué de loger ses enfants, enfin parce que tout est compliqué, voilà. Bon, donc en fait, se réinventer dans un monde qui nous comme ça qui nous stresse, c'est plus dur, non?
C'est plus dur, mais en même temps, on a aussi tous les travaux dans la psychologie scientifique de ces dernières années qui nous donnent aussi des instruments et des outils pour réfléchir et réfléchir de manière structurée. Parce que le piège, c'est d'être dans l'introspection permanente, sans fin.
Oui.
On s'interroge, on se pose des questions, et puis on n'a pas de cadre et de structure pour avancer. Et l'enjeu, c'est justement d'avoir à la fois une réflexion profonde sur soi, et ne pas acheter évidemment la méthode qui vous dit vous faites ci, vous faites ça, parce que ça ne vous correspond pas, c'est pas à votre rythme, et en même temps de pouvoir aussi, dans cette réflexion, aboutir à quelque chose. Et aboutir à quelque chose de réaliste, parce que souvent, l'idée du changement de la crise, c'est alors je pars à l'autre bout du monde, je change complètement de vie, je mets tout de côté, je repars à zéro. Et ça, c'est quelque chose qui donne parfois un peu l'impression que ça donne du sens, temporairement, et puis très rapidement, au bout de quelques mois, on s'aperçoit que finalement, on retrouve les problèmes avec lesquels on est parti, finalement.
Alyosha Wald-Lazowski, Thibaut de Saint-Maurice, vous êtes deux philosophes qui approchaient dangereusement de la cinquantaine. Est-ce que vous ressentez ce besoin de sens qui peut peut-être apparaître à cet horizon-là?
Alors oui, toujours dans une forme de discipline presque quotidienne, parce que on peut aussi le vivre comme ça, qui est de se dire ce sens, il est toujours devant moi, et donc moi j'entends surtout donner du sens à sa vie, en fait vouloir la comprendre. Alors c'est vrai que les études de philosophie sont traversées par plein de questions qui reposent couramment cette question-là, mais faut pas croire que c'est pas parce qu'on, enfin je sais pas ce qu'on pensera à Alyosha, mais en tout cas de mon point de vue, c'est pas parce que j'ai lu plein de livres de philosophie que j'ai résolu cette question, parce qu'elle peut se poser théoriquement et après il s'agit de la vivre. C'est peut-être aussi parce que je me la pose que j'ai fait ces études-là et que j'ai lu ces bouquins-là.
Et vous, il y a également la question de la foi qui donne du sens à votre vie.
Alors oui, c'est vrai, moi je suis catholique pratiquant, quelque chose qui est vraiment complètement choisi, intégré. Et qui, là encore, en fait, est une forme de chemin et de questionnement qui est, en fait, toujours un peu devant moi et toujours quotidien, parce que on aurait tort de croire que, là aussi, en tout cas, enfin, là, moi, c'est la manière dont je la vis cette fois, on aurait tort de croire que c'est un ensemble de réponses toutes faites, c'est des systèmes et des textes qui nous donneraient toutes les clés. Moi, j'aime bien la phrase, je crois que c'est Peggy qui disait, la foi, c'est, sur 24 heures, c'est 23h59 de doute et une minute de confiance. C'est ça aussi. Mais voilà, quand je dis c'est une discipline quotidienne, c'est que ça maintient vivant, presque, très quotidiennement, dans l'ordinaire de la vie, ça maintient vivant ce souci de est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre ou est-ce qu'il n'y a rien ? Parce que parfois, il y a des événements qui arrivent et en fait, peut-être, il n'y a rien à comprendre. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre ? Est-ce qu'il n'y a rien ? Comment je me positionne par rapport à ça ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Ou en fait, c'est juste un concours de circonstances ? Voilà. Et donc, ça, je pense que ça anime aussi la vie quotidienne et ça permet peut-être de vivre un peu moins violemment des situations de désarroi.
Alyosha Wald-Lazowski ?
Oui, après la foi dont on vient de parler, tout bon, moi, je dirais c'est l'amour. Finalement,
on y arrive.
Oui, donner du sens à sa vie, ça c'est forcément tourné autour de la question. Au cœur de cette question, c'est la question de l'amour, qui peut être l'affect, l'affection, le sentiment. Ça prend beaucoup de formes, évidemment, l'amour. Mais au fond, on cherche tous à donner un sens à sa vie parce qu'on cherche tous l'amour et on veut essayer de le trouver et l'échanger, le partager, évidemment, parce que ça implique là aussi tout ce qui fait le relationnel, le rapport à l'autre, etc. Mais je pense que l'amour, c'est finalement la question du sens de la vie.
Émeric Langueran ?
Oui, avec la foi de Thibaut et puis l'amour d'Alyosha, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la croyance. Et que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effondrement de croyance et qu'il s'agit d'aider la personne à retrouver de la croyance, parce que pour pouvoir avancer, il faut une croyance. Et il faut des croyances qu'on va appeler, alors en psychologie, on appelle ça des schémas de pensée. Mais sans croyance, on ne peut pas avancer. La difficulté, c'est que cette croyance, elle fonctionne pas à la preuve, comme la foi d'ailleurs. La foi, elle ne tient pas si elle a besoin de preuves. Et l'amour, c'est la même chose. L'amour ne peut pas tenir si on a besoin de preuves. Et donc tout l'enjeu, c'est de réussir, parfois, à faire évoluer ses croyances, à trouver de nouvelles croyances qui nous permettent d'avancer dans cette deuxième partie de la vie, si on est au milieu de la vie.
Oui, moi je pense que, effectivement, c'est une question de croyance. Et si par hasard, on ne croit plus en soi, enfin, si jamais on a eu cru en soi, mais, on peut toujours au moins croire en ses amis. L'amour, croisons tous les doigts. Mais
amour, passion. Voilà. Amour,
mais l'amitié, cette notion de pouvoir croire en l'affection de quelqu'un et croire que ce quelqu'un même si on se gourre un peu de sens, va nous reprendre par la main pour nous dire qu'on se gourre de sens et nous amener sur un autre chemin. Ça, c'est quand même, je pense, la base.
Et si on écoutait Jean-Paul Sartre en 1974 ?
Les gens affirment sans preuve que l'existentialisme, c'est la mode du désespoir. Mais en réalité, la grande idée de l'existentialisme, c'est précisément de lutter contre le sentiment d'impuissance. Nous pensons que l'homme n'est jamais impuissant que lorsqu'il est persuadé qu'il l'est. Ah, alors là, c'est vraiment l'impuissance parce qu'il ne fait plus rien, parce qu'il attend du dehors et que les choses arrivent en dehors de lui. Mais même dans les situations les plus écrasantes, l'existentialiste pense que l'homme est libre. Mais surtout, n'est-ce pas, nous pensons que la responsabilité de l'homme est terrifiante parce que l'homme devient exactement ce qu'il décide d'être.
Jean-Paul Sartre, en novembre 1974, sur la RTF, Alyosha Wald-Lazowski, pourquoi l'existentialisme de Sartre apporte une réponse intéressante à la question du sens de la vie, Sartre auquel vous avez consacré un très bel essai, Jean-Paul Sartre, une introduction en poche chez Pocket.
Merci, oui, alors effectivement, Aymeric a cité cette phrase, l'existence précède l'essence. Alors l'essence s'écrit dans la phrase de Sartre en un seul mot, E-2-S-E-N-C-E, mais on pourrait presque dire l'existence précède le sens. Pour notre émission, parce qu'effectivement, ça veut dire que contrairement à l'arbre qui est là pour faire pousser des feuilles et produire des fruits, l'être humain n'est pas là pour une destination particulière. En tout cas, son sens, son but n'est pas donné. Donc, c'est toute la question d'être. Voilà, Sartre nous dit l'être humain est là sans raison, sans nécessité. Il va devoir, d'où l'angoisse évidemment, il va devoir trouver par lui-même ce cheminement. Et effectivement, ça va être toute l'idée de Sartre que le sens de la vie, il faut le trouver pour chacune et chacun. Il y a une autre phrase que je trouve très très belle. Alors, c'est la phrase évidemment de Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe, on ne naît pas femme, on le devient. Ça veut dire qu'il n'y a pas une définition de la féminité, il n'y a pas une origine, une nature prédonnée, et donc chaque existence va devoir effectivement la trouver. Et une autre phrase, comme ça on a trois phrases, l'existence précède l'essence, on ne naît pas femme,
trois
on le devient.
Punchline.
Trois punchlines pour Thibault, et la troisième, je trouve très bouleversante pour moi, de Albert Camus, qui dit « Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas d'ailleurs non plus ». Ça veut dire comment trouver sa place, comment se sentir reconnu au milieu des autres. C'est finalement trois personnalités qui nous ont expliqué que l'existence, c'est un chemin et qu'il va falloir effectivement se le donner. D'où la problématique de la prise de conscience de la contingence. Hein. C'est-à-dire, c'est ça l'angoisse. Mais au fond, c'est la même chose que la liberté dont on va devoir être responsable.
Vous êtes également un grand spécialiste de l'œuvre du poète et philosophe Édouard Glissant, auquel vous avez consacré un beau livre au PUF. Édouard Glissant, né à la Martinique en 1928 et mort à Paris en 2011. Pourquoi Édouard Glissant nous offre-t-il une piste intéressante sur cette question du sens de la vie?
Alors, pour moi, Édouard Glissant, d'abord, c'est Édouard Glissant nous dit quelque chose qui est très important, c'est la notion d'identité. Sauf qu'il faut distinguer l'identité racine, c'est-à-dire celle où on va se replier sur soi et être un peu fixé, de l'identité relation, qui, elle, va nous ouvrir vers sans doute l'imprévisible, mais qui va petit à petit nous amener. Moi, c'est une belle notion, je trouve, pour donner du sens à sa vie. Chez Édouard Glissant, lisez-le, vous verrez, c'est la joie. En fait, Édouard Glissant nous dit que c'est voilà, aller dans le sens de la vie, ça va être effectivement un cheminement, mais on va y trouver la joie. Il y a une très très belle phrase qu'il dit « Il y a tant de présence dans une ronde de tambour, tellement de langue dans un cœur de reggae et dans une phrase de Faulkner, tellement d'archipel dans une envolée de jazz, et combien d'énormes rires de libération et de jubilation quand tout cela se rencontre. » Moi, cette phrase, elle me donne de la joie, parce que je sens qu'on va pouvoir partager des choses. C'est l'idée de très belle de Glissant, c'est-à-dire c'est la relation archipel. Il faut essayer de rentrer dans une relation archipélique avec les autres, où il n'y a pas de centre hein, dans un archipel d'îles réunies. Il n'y a pas une île au centre qui serait au milieu. Tout est toujours un peu en mouvement. Toutes les îles sont en connexion, en relation. Et je trouve que c'est une très belle idée de s'engager dans l'existence comme ça.
Aymeric Langueyran, revenons à votre livre, Comment redonner du sens à sa vie, et vous proposez 10 étapes. Alors, je ne crois pas qu'on aura le temps d'évoquer les 10 étapes. 10 étapes pour nous aider à redonner du sens à notre vie. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes d'essentielles ?
Le point de départ, c'est déjà de faire un état des lieux dans les sciences cognitives et dans l'approche scientifique de la psychologie. On fait ce qu'on appelle une ligne de base. C'est de faire un état des lieux. Et le meilleur état des lieux, c'est de prendre son quotidien et de noter tous les éléments, tout ce qu'on fait au quotidien, juste pour avoir une photographie. Et regarder déjà dedans qu'est-ce qui peut être une source de plaisir, qu'est-ce qui peut être une source d'épanouissement, de satisfaction. Pour pouvoir commencer peut-être à identifier des choses qui comptent pour soi. Et encore une fois, en partant de la réalité du quotidien, parce que le piège de cette question-là, c'est de partir dans les grands changements, les grandes révolutions qu'on va jamais réussir à mettre en œuvre, et ça reste un rêve auquel on n'accède jamais, comme disait Benoît Poulvorde.
Deuxième étape, imaginer sa vie rêvée, en faisant attention à l'irréalisme, au manque de clarté, de précision, ou au projet chimérique. Oui. Imaginer sa vie rêvée.
C'est imaginer son quotidien. C'est sa vie rêvée, c'est pas une semaine rêvée, c'est sa vie rêvée. Donc c'est pas j'ai gagné au loto, et c'est pas ce rêve auquel on accède jamais. Je vais gagner au loto, c'est ce qui permet de vendre des tickets de loto, mais ça aide pas les personnes à avancer. Et l'idée avec ça, c'est juste de commencer à identifier non pas des choses qu'on va faire dans la vie rêvée, mais des choses qui nous inspirent, qui nous donnent envie, dont on va pouvoir tirer ensuite des éléments, avec notamment quels sont les domaines dans ma vie qui me semblent importants, et ensuite quelles sont les valeurs personnelles qui compte pour moi, parce que ça va être ça l'enjeu de l'exploration.
Donc, il est important donc d'identifier ces domaines prioritaires et également de clarifier ses vrais besoins, c'est-à-dire de distinguer les moteurs internes et externes de nos comportements.
Oui, on a besoin d'autodétermination. Et le piège, parfois, c'est d'introjecter finalement des conseils, des idées, des projets, parfois des maires qui sont derrière et qui disent qu'il faut faire ceci ou cela.
Et pères aussi. Hein.
Tout à fait, oui, bien sûr. De l'environnement justement qui est là et qui pose, des fois c'est les amis aussi qui peuvent être comme ça de conseils, et qui font que finalement on est en train de suivre un chemin qui n'est pas le sien, mais celui qu'on pense qu'on devrait suivre. Et donc la démarche, c'est de pouvoir sortir de ça et de regarder, mais finalement ce projet là que j'ai, cette envie que j'ai, c'est la mienne ou c'est celle que je pense que je dois avoir, surtout à cet âge là
Agnoucha?
Oui, effectivement, moi je dirais que là ce que je ressens moi dans cette analyse, c'est l'idée qu'il faut essayer d'arriver à trouver aussi la dimension qui nous plaît dans l'existence et qui nous permet, nous, de nous épanouir peut-être. Moi, par exemple, pour moi, c'est la musique, parce que j'aime bien aussi cette dimension-là. Si on arrive à trouver des activités, effectivement, qui d'un seul coup nous permettent un épanouissement, évidemment pas idéal, mais même provisoire, on va ressentir du plaisir et une satisfaction. Et ça, c'est vrai que c'est des moments très importants dans la vie.
Quelles sont les autres grandes étapes, Émeric Langueyrand?
L'enjeu, ensuite, c'est de voir un peu quels peuvent être les obstacles et essayer de mettre en place une résolution de problème par rapport à ces obstacles, et puis conscientiser aussi ses capacités. Sartre parlait de confiance en soi, on parle beaucoup souvent d'estime de soi. Il y a un piège avec l'estime de soi, c'est qu'on se donne une note. Oui. Et donc j'ai une bonne note ou une mauvaise note, et je passe mon temps à essayer de faire remonter la note qui est en train de baisser, parce qu'elle a illusoirement été élevée, et puis elle s'effondre d'un seul coup. J'ai des likes sur un post, c'est formidable, j'en ai pas le post suivant, oh là là, tout s'écroule. Et l'enjeu, c'est de sortir de la question de s'estimer. On n'est pas là pour faire une estimation, on n'est pas un bien immobilier ou un meuble. Non, la question, c'est de voir quelles sont mes capacités, mes forces, les ressources dont je dispose et que je vais pouvoir utiliser justement pour avancer dans des actions concrètes. Et puis ensuite, la question, c'est quelles actions concrètes dans mon quotidien. C'est pour ça que l'état des lieux du quotidien, il est important, parce que l'enjeu, c'est d'introduire dans son quotidien des éléments avant de partir sur les grands changements, les grandes révolutions.
Puis le plus difficile, c'est de passer à l'action, trouver la motivation, une fois qu'on a fait cet état des lieux, trouver la motivation pour s'engager dans cette nouvelle vie.
Oui, la motivation, c'est ce qui va justement être le moteur. En quoi c'est important pour moi? Quelle est la confiance que j'ai dans ma capacité à avancer dans cette direction-là? Quelles sont mes envies? La joie aussi est un élément qui est important. Pendant longtemps, la joie n'a pas intéressé les psychothérapeutes, parce que la joie, on était sur la colère, la tristesse, des choses qui donnaient un peu plus de... ou la peur qui donnait un peu plus de sérieux. Mais la joie, c'est indispensable, parce que cognitivement, c'est ce qui nous permet de nous ouvrir et d'aller à la rencontre des autres.
Vous faites une drôle de tête, Guillemette.
Non mais ça va maintenant, il y a eu le mot joie. Non, parce qu'avant, ça parlait de motivation. Moi, dans ma tête, ça veut dire effort. Et alors là, du coup, là, j'étais paniquée complètement. Si on peut remplacer l'effort par la joie, ça me va.
Oui, oui, la motivation, effectivement, c'est avant tout l'élan et l'envie d'aller quelque part.
Ouais. Alyosha Wald-Lazowski, il y a une chose essentielle qui vous aide à donner du sens à votre vie. Vous l'avez dit, c'est la musique, pas simplement en tant qu'auditeur. Vous êtes également musicien. Pourquoi c'est si important que vous, la musique dans votre vie, pour donner un cap à votre existence?
Il y a la punchline que Bohème Rhapsody, qui est celle de Nietzsche, sans la musique, la vie serait une erreur. Mmh. Et je pense pour tout le monde, en tout cas, moi, je trouve que la musique, elle nous apporte deux choses, parce qu'elle est vraiment, d'une part, de l'ordre de l'émotion. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ressent vraiment dans son corps, dans son affect. C'est-à-dire c'est vraiment
dans ses cellules.
Voilà, c'est ça, c'est des cellules, c'est des frissons qui nous traversent. Et d'autre part, moi, je pense que la musique, ça nous raccorde toujours quelque part à l'enfance. C'est-à-dire l'enfance, c'est aussi la voix. Au début, peut-être que l'enfant chante d'abord avant de parler, je ne sais pas. Mais je sais pas. Pour moi, la musique, c'est l'enfance parce que c'est la musique, c'est une forme de liberté. Le corps s'exprime, on danse, on est comme ça, innocent quelque part. Donc voilà, l'émotion du corps et le retour à l'enfance. Moi, je conseille à tout le monde de fredonner une petite ritournelle par jour. Ça apporte un peu de joie, un peu du bien. Moi, j'aime celle de McCartney. Mais je les pratique de temps en temps, mais on peut choisir.
Vous avez d'ailleurs choisi pour cette émission une chanson des Beatles, écrite par John Lennon et Paul McCartney, et interprétée par Paul McCartney. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Alyosha Wald-Lazowski.
Bah, je voudrais
quoi ce choix enfin, c'est une évidence.
And if I said I will ignore you well, what would your answer be? If you were here today, here today. Il y a quelques jours à Montréal, Paul McCartney, quand il est sur scène, à un moment donné...
Exactement, il était à Montréal.
Le 7 et le 8, je vous ai suivi,
Guillemette. J'ai pas pu y aller.
Mais alors, je peux vous raconter ça. Il fait son concert, et ça, lorsqu'il est un moment sur scène, il demande à ses musiciens de sortir, et la salle est plongée dans une nuit étoilée, et il chante deux chansons tout seul à la guitare. C'est Blackbird et Here Today. Mm. Et moi, je trouve que ça, c'est magnifique.
Pourquoi ça vous émeut autant ?
Ça me touche, ça me touche, ça me bouleverse, parce que pour moi, c'est une chanson qui ramène à quelque chose de très simple, de très sincère. Et je pense qu'on en a tellement besoin dans nos vies d'être reconnecté à ça. Moi, ça m'aide à me reconnecter tout simplement à des choses simples. Je vous ai chanté Here Today, c'est une chanson qu'il a écrite au moment de la mort de John Lennon en 1980. Et c'est des mots très simples, il dit « je t'aime » à son ami. Et moi, je pense qu'il faut se le dire tous les jours.
Oui, non, mais en fait, je suis en train de me dire qu'on parlait de joie, de motivation, de trouver un autre chemin. Mais je pense qu'il faut retrouver les émotions. Enfin, et savoir où est-ce que ces émotions-là, ce qui nous émeut le plus, où est-ce qu'on le trouve et où est-ce qu'on le garde, quoi.
Vous savez, quoi, quand j'étais petit, j'aimais bien le dessin animé le Livre de la Jungle, parce qu'il était sorti d'ailleurs en 68, et il y avait Bootsy, Flaps, Bitsy et Ziggy, c'est les quatre vautours à la fin qui chantent des vocalises. Et moi, les chansons de vocalises comme ça, ça peut être les Bee Gees, les Beach Boys, ouais. Les Beatles, tous les B, comme ça.
Les,
moi,
Beach,
ça
Boys, ouais.
Les Beach Boys aussi, moi ça me touche beaucoup.
Aymeric Langerand,
oui,
quelques mots.
La joie, effectivement, l'émotion, c'est au cœur, parce que ce qui va nous mettre en mouvement, c'est quelque chose qui va animer nos émotions. Et l'enjeu, c'est de trouver ce qui nous anime, justement. Il faut être vivant, et les émotions, c'est ce qui permet d'être vivant, et qui nous permet aussi de parfois faire des choix et de discriminer, finalement, quelle direction il faut prendre.
Allez, dans un instant, les punchlines de la philo de Thibaut de Saint-Maurice. On se retrouve juste après avoir écouté Georgia Smith, With You, 10h54 sur France Inter. You tell me life is better when you... Georgia Smith interprétait With You.
France Inter.
Nietzsche, allez.
Rends bien vous face.
L'homme qui a dû en mort est pareil au chien qui mord une pierre.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme.
Ah bon ?
Alors, mon cher Thibaut de Saint-Maurice, vous vous attaquez à une formule percutante, presque un slogan, signé du philosophe Alain. Penser, c'est dire non.
Oui, Ali, cette phrase courte donc a été écrite par Émile Chartier, donc dit Alain, hein, c'était un pseudonyme, un professeur de philosophie légendaire du début du XXe siècle. Si je ne me trompe pas, il a été le professeur de Sartre, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est la première phrase de son propos du 19 janvier 1924. Alors à cette époque, hein, Alain fait un peu le même job que moi. Il est chroniqueur et il écrit des chroniques dans la presse qu'il appelle des propos.
Je vous souhaite le même destin.
Oui, on verra dans 100 ans. Alors, penser, c'est dire non. Au premier abord, on a l'impression qu'Alain fait ici l'éloge de l'esprit de contradiction. On pourrait croire que ça veut dire que pour bien penser, il faut être, vous savez, ce collègue pénible en réunion qui n'est jamais d'accord avec personne, ou cet ado qui claque la porte de sa chambre en hurlant non à ses parents par principe. On pourrait même croire qu'Alain justifie une forme de scepticisme radical, un peu comme ces complotistes aujourd'hui hein, qui disent non aux faits, non à la science et qui rejettent tout en bloc juste pour avoir l'impression d'exister. Si penser, c'est dire non, alors le râleur, le rebelle sans cause ou l'internel insatisfait seraient les plus grands penseurs de notre temps. Et de l'autre côté, dire oui, ce serait être faible, naïf, être un, vous savez, comme on dit, béni oui-oui, voilà, comme on dit de ceux qui sont d'accord avec tout par manque de caractère.
Mais j'imagine que pour le philosophe Alain, ce non, c'est un peu plus subtil que ça, et ça va beaucoup plus loin qu'une simple crise d'adolescence.
Oui, exactement, ce n'est pas un nom d'humeur, c'est un nom de réveil, pourrait-on dire. Pour comprendre Alain, il faut visualiser une image très simple, hein, et il l'utilise lui-même d'ailleurs. Regardez quelqu'un qui s'endort, que fait sa tête ? Eh bien, elle tombe en avant dans un mouvement de hochement qui ressemble à un oui. Le oui, pour Alain, c'est le signe du corps qui se laisse aller, qui s'abandonne au sommeil, c'est le confort de celui qui accepte tout ce qui vient sans trier. À l'inverse, quand on se réveille brusquement, que fait-on ? Eh bien, on secoue la tête. On fait non de la tête pour chasser le sommeil et reprendre ses esprits. Voilà, penser, c'est ce mouvement-là. C'est un sursaut. Ce n'est pas dire non aux autres pour le plaisir de les embêter, mais c'est d'abord se réveiller, questionner, être à l'affût et faire preuve d'esprit critique. Deux phrases plus loin, Alain précise. Non à quoi ? Eh bien, dit-il, au monde, aux tyrans, aux prêcheurs. On commence donc à penser quand on questionne la manière dont le monde nous apparaît, quand on questionne les certitudes du tyran et les croyances du prêcheur. Mais il faut aller encore plus loin et aller jusqu'à dire non à soi-même. Dire non à notre propre envie de croire ce qui nous arrange, ce qui nous rassure, ce qui nous fait plaisir. Dire non même à ce que nous sommes, ce dont nous héritons, ce qui est tellement incorporé que nous ne le voyons plus. Le penseur pour Alain, c'est comme une sentinelle, un guetteur. Il met sa main en visière, il plisse les yeux, il doute de tout ce qu'il voit au loin. Il ne laisse pas entrer n'importe quelle idée dans son esprit comme dans un moulin. Et tant qu'on n'a pas dit ce non de l'examen critique, on ne pense pas. On croit seulement et on dort les yeux ouverts. Alors oui, c'est difficile de dire ce non à ce qui paraît évident, c'est difficile de penser contre soi. Je suis un homme, mais puis-je penser contre mon genre ? Je suis français, mais puis-je aussi penser contre mon histoire et contre mon éducation ? Encore une fois, pas par pure contradiction, mais au nom de cette liberté qui ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, et parce qu'à chaque fois que nous disons non à la bêtise qui nous guette, on se prépare à dire oui à la vérité qui vient.
Les punchlines de la philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster sur l'appli Radio France. Merci aux amis du vendredi, Thibaut et Guillemette. Merci Aymeric Langerand. Comment redonner du sens à sa vie, c'est publié chez Dunod avec de nombreux outils très concrets. Merci Alyosha Oval-Lazowski. Parmi vos derniers livres, Les 5 secrets de James Bond chez Max Milo. Merci Nathalie Romero qui m'a aidé à préparer cette émission avec l'aide de Noé Brabant. Merci Anaïs Reinhardt pour la réalisation. Merci Valentine Chedebois pour la programmation musicale. À la technique ce matin, Julien Thévenot.